Sébastien Paour pour l'info. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Le cap vert de l'exécutif pour la suite du quinquennat. Plus personne n'a le monopole du vert, dit Édouard Philippe dès le début de son discours de politique générale. Fini le plastique dans les administrations dès l'an prochain. Remise à plat des aides à la rénovation énergétique et la promesse de référendum sur certains sujets écolos. À retenir aussi de ce discours, la PMA pour toutes en Conseil des ministres en juillet. La réforme constitutionnelle reportée, Gérard Larcher ne comprend pas le renoncement du gouvernement. Et des précisions sur les 5 milliards de baisses d'impôts pour les classes moyennes. 363 voix pour, 163 contre. Large confiance à l'instant. À l'Assemblée, détails et réactions dès le début du journal sur franceinter.fr et au téléphone sonne, Fabienne.
Absolument, puisque les chantiers sont ouverts, les gros chantiers de l'année à venir, que les calendriers sont plus ou moins là. Dites-nous ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en dites, vous, de cet acte 2? Est-ce que c'est bien un acte 2, d'ailleurs? 01 45 24 7000.
Au sommaire également ce soir, le mariage avec Nissan, priorité de Renault avant d'envisager Fiat. Nous sommes à l'AG des actionnaires. Marine Le Pen en procès pour les images de Daesh sur son compte Twitter. Et puis les Bleus face à la Norvège, deuxième match des Françaises en Coupe du Monde féminine de foot.
France Inter.
Édouard Philippe a donc montré le chemin de l'acte 2 du quinquennat dans sa deuxième déclaration de politique générale après celle de juillet 2017. Et il l'a tout de suite placé sur une voie express dédiée aux urgences, c'est son mot. Urgence économique, sociale, politique, on va les détailler. Et d'abord, urgence écologique. Bonsoir Yaël Gauz.
Bonsoir Sébastien.
Les européennes sont passées par là, les municipales sont en ligne de mire. Le Premier ministre promet que les 12 prochains mois seront ceux de l'accélération, oui, écologique.
Oui, la priorité écologique. Tête de chapitre de l'acte 2, comme elle était dans le programme de la liste Renaissance. Les jeunes nous bousculent, dit Édouard Philippe, qui fait son autoportrait d'un homme de droite en transition écologique, en conversion, parce que plus personne, selon lui, n'a le monopole du vert.
Je connais les soupçons me concernant. Je viens de la droite, j'ai travaillé dans une grande entreprise française du nucléaire, je suis élu d'une ville industrielle, je ne pourrai donc ni rien comprendre, ni rien faire. Je trouve que c'est faire peu de cas de mon expérience au Havre, et peu de cas de ces deux années de gouvernement. Mais oui, j'ai mis du temps, comme d'autres Français, à considérer que ces enjeux étaient aussi urgents que la défense de l'emploi ou la sécurité.
Alors, quel contenu vert dans le contenant en même temps? Eh bien, la lutte anti-gaspillage, l'objectif de parvenir à 100% de plastique recyclé et des chantiers à préciser, remise à plat des aides à la rénovation énergétique, des tarifs de l'électricité régulés et la grande inconnue, tout ce qui sortira début 2020 de la Convention citoyenne. Le paradoxe de ce moment politique, Sébastien, c'est que cet acte 2 écologique est annoncé sans qu'aucun député ELV ne soit présent dans l'hémicycle et pour cause, ils ont été balayés en 2017. Réaction de David Cormand, secrétaire national des Verts et proche de Yannick Jadot.
On n'a pas bien compris, en tout cas moi j'ai pas bien compris, quels moyens il mettait sur la table pour répondre à cette urgence. Sur la PAC, alors ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'a pas voulu utiliser le terme de bio. Alors que si on veut passer à autre chose en matière agricole, le bio ne doit pas être un mot tabou, au contraire. Et il y a un autre mot très important qui n'a pas alors du tout été prononcé, c'est biodiversité.
David Cormand au micro d'Élodie Forêt.
L'autre grande annonce de ce discours, Yaël, c'est l'extension de la PMA à toutes les femmes. On va y venir dans un instant avec Daniel Messager. Ce sera dans le projet de loi de bioéthique qui sera adopté en Conseil des ministres en juillet.
Ouais, jusqu'au dernier moment, les députés, l'AREM, les cabinets ministériels ont tremblé. Fallait-il ou non inscrire un sujet potentiellement crispant politiquement avec la droite avant les municipales, au risque de ressouder une opposition aujourd'hui chaos debout? Bien là aussi, Édouard Philippe fait preuve de conversion, lui qui s'était abstenu comme député en 2013 sur le mariage pour tous.
Conformément aux engagements du président de la République, il autorise le recours à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Le projet de loi adopté en Conseil des ministres fin juillet et pourra être débattu au Parlement dès la fin septembre, juste avant la discussion budgétaire.
Et ces applaudissements, ces cris de joie que vous entendez, ce sont ceux de députés marcheurs tendance aile gauche qui poussent depuis des mois pour que le sujet ne soit pas sacrifié au profit d'autres réformes. Le sacrifice provisoire, c'est celui de la réforme des institutions. Pas de révision constitutionnelle possible avec un Sénat qui bloque. Édouard Philippe attend le renouvellement de la Chambre haute en 2020.
Vous restez là, Yaël. On a donc le calendrier de la PMA pour toutes les femmes. Daniel Messager, bonsoir.
Bonsoir.
Cette extension a souvent été promise et jusqu'ici toujours repoussée.
Oui, car Emmanuel Macron, tout en étant favorable, souhaitait d'abord attendre l'avis du
comité consultatif d'éthique. Car il ne faut pas oublier que la PMA pour toutes les femmes, c'est le morceau de choix, mais elle fait partie de la révision des lois de bioéthique. Alors en juin 2017, l'avis du CCNE est rendu, il va dans le même sens. On pense que les choses vont aller vite, une loi bioéthique en 2018, mais il faut auparavant consulter les Français, ne pas donner l'impression qu'on se passe de leur avis. S'ouvrent donc les états généraux de la bioéthique, avec des débats un peu partout, et un rapport qui est remis au printemps 2018. Alors une loi à l'automne? Eh bien toujours pas, le sujet reste sensible, et le gouvernement s'oriente alors vers 2019. Et pendant plusieurs mois, de nouveau l'incertitude, pourquoi pas 2020 jusqu'à aujourd'hui donc. Une annonce que saluent les femmes qui l'attendaient, Élodie Guéguen est membre de l'association des parents gays et lesbiens.
C'est vraiment une excellente nouvelle pour toutes les personnes concernées, ça faisait longtemps qu'on attendait ça, parce que c'est vraiment très compliqué pour l'avoir vécu et être dedans encore, financièrement, médicalement, logistiquement, d'un point de vue professionnel, ça vous fout dedans complètement de devoir partir à l'étranger. Déjà que c'est un parcours du combattant, les PMA, mais alors je peux vous dire que quand vous devez le faire à l'étranger, c'est vraiment très très dur. Et la deuxième raison, c'est que c'était une inégalité complète, quoi. C'était vraiment extrêmement discriminant et tout à fait injustifié.
Alors dans cette loi, il y a aussi, entre autres, l'autoconservation des ovocytes, la levée de l'anonymat des dons de gamètes, le diagnostic génétique. Les parlementaires ont été conviés à des séminaires en début d'année pour travailler sur ces thèmes que beaucoup découvraient. Alors ils ont l'été pour réviser car ils savent désormais que les discussions commencent dès la rentrée.
Daniel Messager, on attendait aussi du nouveau sur le pouvoir d'achat et notamment des détails sur les baisses d'impôts sur le revenu pour les classes moyennes. Bonsoir Delphine Simon.
Bonsoir.
Les 5 milliards d'euros de baisse promises par Emmanuel Macron en avril.
Oui, c'est la bonne nouvelle qu'Édouard Philippe n'a pas manqué de rappeler. La baisse d'impôts va concerner les deux premières tranches d'imposition. 12 millions de foyers environ, dont le revenu imposable est compris entre 9 000 et 27 000 euros. Pour eux, le gain moyen sera de 350 euros en moyenne. À ce niveau, cela représente un tiers de l'impôt en moins à payer. Pour la tranche suivante, environ 5 millions de foyers, le gain sera plus faible, autour de 180 euros. Alors, qui mettra la main au portefeuille pour financer ces baisses d'impôts? Eh bien, les agences de l'État, certaines seront supprimées, mais aussi les niches fiscales des entreprises. Dans le collimateur, l'avantage sur le gazole non routier, jugé anti-écologique. Le gouvernement veut aussi réduire l'avantage dont bénéficient les grandes entreprises qui font du mécénat. Enfin, il cible la déduction forfaitaire spécifique, une niche sociale, à vrai dire, 1,5 milliard d'euros qui permet aux entreprises et aux salariés de payer moins de cotisations sociale et patronale. À ce stade, Bercy exclut toute suppression brutale. Rien n'est arbitré, dit-on. On en saura plus en juillet.
Édouard Philippe confirme aussi que la future réforme des retraites maintiendra un départ possible à l'âge de 62 ans, mais il annonce que l'exécutif définira un âge d'équilibre. La réforme de l'assurance chômage sera dévoilée le 18 juin et la révision constitutionnelle interrompue par l'affaire Benalla est reportée. Gérard Larcher, le président du Sénat, dit ce soir qu'il ne comprend pas ce qu'il appelle le renoncement du gouvernement. Au final, je reviens donc vers vous, Yael Gauss, sur la forme, un discours personnifié par Édouard Philippe. On a beaucoup entendu le jeu.
Oui, clairement, il a mis sa patte. Hein. Le Premier ministre se dévoile, il dit son rapport à l'écologie, on l'a dit. Sa filiation politique aussi, hein, ses modèles. Pierre Mendès France, Pompidou, Rocard et Juppé. Il se dit réformateur, mais les gilets jaunes sont passés par là. Et désormais, l'homme des 80 km/h veut associer tout le monde à la fabrique de la loi. Comment changer de méthode sans changer les hommes? L'homme, l'une des clés aussi pour durer à ce poste. Édouard Philippe est bien parti pour au moins le temps d'un acte 2.
Comment cette déclaration sur l'acte 2 a-t-elle été accueillie? Précisément, la confiance ne venait pas de doute, avec plus de 350 députés dans la majorité sur 577. Au final, 363 votes pour, 163 contre. On voit ça avec vous à l'Assemblée. Maxence Lambrecq, bonsoir.
Oui, bonsoir.
C'est un tout petit peu moins qu'en juillet 2017.
Oui, mais Édouard Philippe ressort conforté avec 363 députés. C'est quand même toute La République En Marche et le Modem qui ont voté comme un seul homme. Il y a deux ans, 129 députés s'étaient abstenus. Ils n'en sont plus que 47 aujourd'hui, surtout des centristes de l'UDI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droite a fait bloc, plus de 80 votes contre. Il n'était que 23 au début du quinquennat. La droite a fait bloc avec Guillaume Larrivé qui explique son choix.
Il y a un énorme problème. Je regrette qu'Édouard Philippe avance en crabe de manière trop précautionneuse et n'annonce aucune orientation précise pour diminuer enfin le poids des dépenses publiques en France.
Question de financement soulevée aussi par Emmanuel Ménard, député soutenu par le RN.
comment on va financer les baisses d'impôts, on n'en sait rien. C'est hallucinant, on entend le Premier ministre parler de l'interdiction des boîtes en plastique. Et à côté de ça, sur l'immigration ou sur la sécurité, pas un mot ou quasiment rien. Donc on rentre dans le détail pour faire bien, pour faire du pied aux écolos. Et puis de l'autre côté, il n'y a rien.
Voilà. Et dans l'opposition ce soir, vous retrouvez aussi toute la gauche communiste, insoumise et socialiste avec leur chef Olivier Faure.
Beaucoup d'espérances déçues pour ceux qui espéraient trouver la jambe gauche après avoir bien perçu la jambe droite au cours des deux premières années. Il n'en est rien, malheureusement. Il n'y a pas de tournant, il n'y a pas de virage social comme nous aurions dû l'espérer après le 26 mai.
Et la gauche qui s'apprête à ferrailler contre la réforme de l'assurance chômage présentée mardi prochain.
Maxence Lambrec en direct de l'Assemblée. Il y aura aussi un vote demain au Sénat après la déclaration du Premier ministre prévue à 9h30. Parmi les invités d'Inter demain, Claire Nouvian à 6h20, la cofondatrice de Place Publique. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet à 8h20. Et vous revenez sur cette déclaration d'Edouard Philippe au téléphone sonne, Fabienne, à 19h20.
Absolument, au 01 45 24 7000. Il était attendu de pied ferme, Jean-Dominique Senard.
Le président de Renault par les actionnaires du groupe réunis en assemblée générale après la fusion avortée avec Fiat. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
Il confirme qu'il faut d'abord renforcer l'alliance avec Nissan.
Oui, il l'a confirmé aux actionnaires qui étaient venus déjà d'une part pour en finir avec les années gaunes comme Daniel retraité qui pense tout de même que tout ça prendra un peu plus de temps.
Je crois qu'on n'a pas fini d'en apprendre, mais on a appris qu'il y avait encore 11 millions qui étaient plus que douteux. On finit par se poser encore d'autres questions. Aujourd'hui, est-ce que ça sent moins mauvais? J'espère.
L'arrestation de Carlos Ghosn qui a fait perdre beaucoup d'argent à ses petits porteurs. L'action Renault, en un peu moins d'un an, a perdu 30% de sa valeur, déplore maître Frédéric Carrel Canois, qui représente ses petits actionnaires, lesquels ne sont, selon lui, pas au bout de leur peine.
Une communication proche, disons, j'allais dire, de l'intox, hein, mais il n'y a pas de transparence. Il suffit de voir les actionnaires individuels qui repartent, même s'ils ont, on leur donne un cadeau, qui repartent quand même un peu inquiets et pas du tout satisfaits de la façon dont les choses se passent.
Ces actionnaires un peu désarçonnés par l'épisode Fiat qui aurait pu nuire aux intérêts de Renault pour cet actionnaire depuis 2001.
En ce moment, on est dans une situation un peu de faiblesse et malheureusement, il y a des requins qui ont essayé de mettre la main sur nous. Et je pense que heureusement que l'État a fait en sorte de temporiser les choses pour pas qu'on se retrouve dans une situation très délicate. Ça plaît pas aux Italiens, tant pis pour eux, ils attendront ou ils mourront comme ils veulent.
L'alliance l'a cajolé, l'a préservé. Jean-Dominique Senard l'a répété à l'envi cet après-midi tout en rappelant la nécessité d'anticiper les évolutions futures.
Et il est maintenu à la tête du conseil d'administration. Merci Maxime Debs en direct du Palais des Congrès à Paris avec Jérémy Thuil.
À 19h et presque 13, Sébastien Marine Le Pen sera jugé en correctionnel.
Pour avoir relayé des images d'exaction du groupe État islamique sur son compte Twitter, c'était en décembre 2015. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir.
Elle avait publié trois photos particulièrement atroces.
Oui, ça se passe un mois après les attentats de Paris et Saint-Denis. Sur RMC, le journaliste Jean-Jacques Bourdin fait un parallèle entre la montée du djihadisme et celle du Front National. Colère de Marine Le Pen qui publie sur Twitter les photos d'un soldat syrien écrasé par un char, d'un pilote jordanien brûlé vif et du corps décapité du journaliste américain James Foley. En légende, Daesh, c'est ça. Sur les réseaux sociaux, c'est le tollé. Les parents de James Foley demandent le retrait de la photo. Le soir même, le parquet de Nanterre ouvre une enquête. Trois ans plus tard, Marine Le Pen sera donc jugée pour diffusion d'images violentes, absurdes pour l'avocat de la présidente du RN, David Dassaledeste.
On est édifié par cette forme d'acharnement avec le parquet de Nanterre et le juge d'instruction qui sont allés jusqu'à détourner, je dirais, la lettre et l'esprit d'un texte qui est parfaitement utile et louable et nécessaire, mais qui est fait pour protéger les mineurs contre les pervers. Et certainement pas un texte qui est fait pour brider la liberté d'expression d'un grand leader d'opposition comme Marine Le Pen. C'est proprement hallucinant.
Et le procès pourrait se tenir au printemps prochain.
Corinne Audouin, l'anesthésiste de Besançon reste en liberté sous contrôle judiciaire. Il est soupçonné d'avoir empoisonné 24 patients lors d'interventions chirurgicales. 9 en sont morts.
Encore des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Hong Kong.
Mais toujours la fermeté du gouvernement pro-chinois qui veut autoriser les extraditions vers la Chine. Là où les manifestants ne voient qu'une menace sur les libertés, la police a utilisé gaz lacrymogène et balles en caoutchouc pour disperser la foule devant le Parlement. Parlement local où elle tentait d'entrer et où les débats sont reportés. La chef de l'exécutif dénonce des émeutes organisées et les Hongkongais redoutent un nouveau Tiananmen, comme l'explique Marie Holzmann, spécialiste de la Chine contemporaine et de la dissidence chinoise à Nathanaël Charbonnier.
À Pékin, les Chinois ont tout fait pour contrôler toute la société, les surveiller, reconnaissance faciale, d'où pas de possibilité de passage d'informations de l'un à l'autre qui permettrait une mini-révolution ou un mouvement de protestation. Mais apparemment, ils n'avaient pas pensé à Hong Kong. Or, on est 30 ans après le massacre de la place Tiananmen. Évidemment, les Hongkongais s'en sont souvenus. Donc, le fait que les Hongkongais descendent à peine quelques jours après à plus d'un million dans les rues de Hong Kong, ça doit mettre la terreur au cœur des dirigeants chinois. Ça, c'est évident. Ce que je peux vous dire, c'est que sur les réseaux actuels dans la diaspora chinoise dissidente, qui évidemment critique énergiquement le Parti communiste chinois, il n'y a qu'un seul mot, ils ont osé tirer il y a 30 ans, ils vont oser tirer aujourd'hui. Donc le pire n'est jamais certain, ça va de soi. On peut dire qu'il n'est pas envisageable, mais dire qu'il ne va pas se passer, ça c'est pas possible.
La journée d'hier en Russie semble n'avoir été qu'une exception. La libération du journaliste Ivan Golunov, faussement accusé de trafic de drogue, et le limogeage de deux hauts gradés des forces de l'ordre. Une marche de soutien aux reporters d'investigation, marche interdite, avait lieu ce matin à Moscou. Elle a tourné à la descente de police, comme d'habitude. Plus de 400 arrestations, dont celle du principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny. Tous ont été libérés ensuite. Elles peuvent prendre la première place de leur groupe, les Françaises, qui jouent leur deuxième match de Coupe du Monde féminine de foot à partir de 21h contre la Norvège. Bonsoir Yann Gallic.
Bonsoir.
Vous êtes devant le stade de Nice, l'Allianz Arena, où a lieu la rencontre tout à l'heure. Quel est l'état d'esprit des supporters et supportrices qui sont autour de vous ?
Eh bien, les supporters des Bleus sont plutôt confiants pour ce deuxième match de l'équipe de France, même si la Norvège sera sans doute un adversaire plus coriace que la Corée du Nord. Les Françaises seront une nouvelle fois soutenues par un stade rempli, 35 000 spectateurs ce soir à Nice. Des inconditionnels qui viennent quasiment à chaque match des Bleus, mais aussi beaucoup de Niçois et de Niçoises, comme Johanna et Elodie, qui sont toutes les deux à nos côtés, et grandes amatrices de football.
Allez les Bleus !
Johanna, vous croyez dur comme fer à une victoire des Bleus ce soir ?
Carrément. Bien sûr qu'on y croit, on est là pour y croire en plus. On va prendre le soutien, tout ce qu'on a, voilà, on est là pour elle.
C'est une belle équipe que cette équipe de France qui suscite de plus en plus de ferveur.
C'est une magnifique équipe qui rassemble des valeurs qu'on a tous en France, de solidarité, de mixité et d'envie, de joie et d'émotion.
Elodie, vous avez un pronostic pour ce soir face à la Norvège ?
Je dirais un minimum de 3-0.
Je vois que vous avez sorti le maillot de l'équipe de France. Vous êtes à fond derrière cette équipe ?
Tout à fait. Nous sommes leur première supportrice.
Alors vous l'avez entendu, hein, les supporters et les supportrices parient quasiment tous et toutes sur une victoire de la France ce soir contre la Norvège. Une victoire qui serait quasiment synonyme de qualification pour les huitièmes de finale.
Pour le second tour, merci Yann Gallic en direct de Nice. Et donc confirmation de ce France-Norvège à partir de 21h. Le sport encore, et là aussi de belles images et des émotions fortes. Le Tour de France qui enregistre cette année un abandon de taille. Bonsoir Fabrice Rigobert.
Bonsoir.
Chris Froome ne sera pas au départ à Bruxelles le 6 juillet. Le quadruple vainqueur de la Grande Boucle a fait une chute tout à l'heure sur le Dauphiné.
Dans une descente à Saint-André-d'Apchon, dans le département de la Loire, vers le 11e kilomètre du contre-la-montre tracé autour de Roanne, le Britannique roulait à 60 km/h avec l'un de ses coéquipiers, Wout Poels. Il a été déséquilibré par une rafale de vent. Il a terminé dans un mur, pris rapidement en charge pour une fracture d'un fémur. Chris Froome a été évacué vers l'hôpital de Roanne et devrait être transporté à Saint-Étienne ce soir. Un accident qualifié de grave par son manager qui a tout de suite confirmé son forfait pour le Tour. De quoi rebattre les cartes ? La réponse de Christian Prudhomme, le patron de la Grande Boucle.
Christopher Froome, c'est le personnage central au départ du Tour de France depuis une demi-douzaine d'années. Il a gagné 4 fois, il visait une 5e victoire. Au sein de l'équipe Ineos, qui a succédé donc à Sky, et dans le peloton, c'est certain que les repères seront différents parce qu'il manquera celui qui était en figure de proue depuis plusieurs années.
Cette absence pourrait simplifier les choses au sein de l'équipe de Froome, 34 ans, qui pourra clairement laisser la priorité à Geraint Thomas, le vainqueur sortant, épaulé par le jeune prodige colombien Egan Bernal, 22 ans. Il n'y aura pas de 10 Pisani en interne, ce qui aurait pu bénéficier à l'Italien Nibali, en néerlandais Tom Dumoulin, au Colombien Quintana, au Français Romain Bardet ou encore Thibaut Pinot. Des Français battus aujourd'hui contre la montre par leurs futurs adversaires de juillet, il faut le signaler, ils ont perdu entre 25 secondes et une minute. Cela n'a rien d'anodin en vue de la grande boucle.
Parions tout de même sur Bardet ou sur Pinot sur le podium du Tour de France à partir du 6 juillet. Merci Fabrice Rigobert.
Et merci à vous Sébastien Paure. On se retrouve demain